Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. On est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Ivy Paolo-Antonacci et Tristan Grenassien, avec à la réalisation cette semaine François Connac et à la prise de son, aujourd'hui, Vincent René. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Noodleman pour le journal de la philosophie. François qui recevra aujourd'hui Emmanuel Fournier à propos de son dernier livre « Creuser la cervelle » paru au PUF. Comment parler du monde? Que pouvons-nous en dire et avons-nous le temps d'y penser avant qu'il ne disparaisse? C'est le troisième temps, aujourd'hui, de notre semaine consacrée au monde avant sa fin. Après l'origine du monde, lundi, le meilleur des mondes possibles hier mardi et la fin du monde, demain jeudi, je vous aurais prévenu, c'est aujourd'hui de monde commun et de mondialisation que nous allons parler, avec le philosophe spécialiste d'Anna Arendt, Étienne Tassin. Que reste-t-il du monde commun dans le processus de mondialisation? La globalisation est-elle la victoire du monde des hommes sur le monde de la nature? Et comment comprendre que l'idée même de monde humain ne soit pas compatible avec le mouvement d'unification propre à la mondialisation? Pour la première fois dans l'histoire universelle, tous les peuples de la Terre ont un présent commun. Aucun événement de quelque importance dans l'histoire d'un seul pays ne peut demeurer un accident marginal dans celle de l'un des autres. Chaque pays est devenu le voisin presque immédiat de chacun des autres, et chaque homme éprouve le choc d'événements qui ont lieu de l'autre côté du globe. Mais ce présent commun, sur le plan des faits, n'est pas fondé sur un passé commun et ne garantit nullement un avenir commun. La technologie qui a réalisé l'unité du monde peut tout aussi bien le détruire, et les moyens de communication globale ont été créés ensemble avec les moyens de destruction globale. La solidarité de l'humanité est à cet égard entièrement négative. Elle ne repose pas seulement sur un intérêt commun à une convention qui interdit l'utilisation des armes atomiques, mais peut-être aussi sur le désir commun d'un monde un peu moins unifié. Bonjour Étienne Tassin.
Bonjour.
C'est donc avec vous que nous allons parler de mondialisation et de monde commun à partir notamment de la pensée d'Anna Arendt. Et le texte que je viens de lire en ce début d'émission est extrait des Vies politiques d'Anna Arendt et date de 1957. Ce qui est fascinant parce que lorsqu'on l'entend, on a l'impression qu'il aurait pu être écrit la semaine dernière.
Oui. Il y a une vertu cachée de la pensée d'Arendt, c'est qu'au fond, elle nous aide aujourd'hui à 60 ans d'écart à penser notre présent. Peut-être parce qu'elle est attachée justement à la question du présent. Vous avez remarqué que dans le texte que vous avez lu, elle insiste sur le présent commun des peuples. Elle parle d'un voisinage qui n'est pas un voisinage géographique. Elle ne parle pas de contiguïté, elle dit un voisinage immédiat. On est dans une sorte de simultanéité, dans un présent. Mais ce qui est important, je crois, c'est que ça ne dessine pas à ses yeux la figure d'un univers enfin réconcilié où nous pourrions imaginer une humanité unifiée. Je crois qu'au contraire, ce qu'elle met en avant de façon extrêmement importante pour nous, c'est ce qu'elle appelle le désir d'un monde un peu moins unifié. Il y a un désir, dit-elle, ce qui est déjà assez étrange, et qui est un désir non pas de se retrouver, de s'identifier, de se reconnaître dans les autres, mais qui serait au contraire le désir que soient maintenues entre nous des séparations ou des divisions. Et alors là, je crois qu'il y a un enjeu qui est fondamental, c'est peut-être cette idée qu'il y a du monde, s'il y a des divisions, si dans le présent commun se maintiennent des divisions, des séparations.
Ce qui va à l'encontre de l'idée qu'on se fait du monde comme étant une totalité close et unique. Hein.
Ah, ça va à l'encontre de l'idée du monde comme totalité close et unique. Et je crois d'ailleurs que le vocabulaire est porteur d'une ambiguïté, parce que nous parlons de mondialisation pour désigner un mouvement supposé d'unification. Je crois qu'en réalité, dans la mondialisation, il y va de tout à fait autre chose, qui est précisément de l'ordre de la pluralité et de la division. Alors que si l'on vise l'idée d'une unification ou d'une homogénéisation, au fond, on renvoie à un autre terme qui est celui de globalisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans presque toutes les langues du monde, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, etc., on parle de globalisation. Et en français, on parle de mondialisation. Et je crois que là, la différence lexicale est porteuse d'une signification philosophique. C'est que soit vous référez cette entreprise d'unification planétaire à l'idée de globe, à la sphéricité du globe et à l'unicité du globe, et nous sommes dans un processus de globalisation, mais ce processus n'a rien à voir avec le monde. Il pourrait même peut-être fondamentalement être immonde, voire destructeur du monde. Soit nous parlons de mondialisation, mais à ce moment-là, nous ne parlons plus d'unification, nous ne parlons pas d'homogénéisation, nous parlons au contraire d'une expérience des divisions, d'une expérience donc évidemment inéluctablement des conflits.
Donc en fait, le terme de globalisation exprimerait cette unité ou ce processus d'unification que l'on attribue généralement à la mondialisation, alors que le terme de mondialisation, lui, comprendrait en son sein, comme le dit Arendt, cette pluralité nécessaire pour faire monde.
Oui, je crois qu'on ne peut pas faire monde s'il n'y a pas une pluralité. Mais s'il y a une pluralité, ça veut dire qu'il y aura évidemment des points de vue et des positions qui sont irréconciliables et qu'il y aura même évidemment, inévitablement, des conflits. Ce que je crois, c'est que du coup, la distinction lexicale entre globalisation et mondialisation, elle signifie aussi un partage entre une vision économique ou économiciste du monde, qui est tout entière engagée dans l'idée de globalisation, et une autre vision, qui est évidemment d'abord, pense-t-on, culturelle, mais qui est, je crois, dans une perspective que l'on peut dessiner à partir d'arènes fondamentalement politiques, qui est celle de la mondialisation. Au fond, on devrait, je crois, opposer la mondialisation politique à la globalisation économique, c'est-à-dire tout le travail par lequel les êtres humains tâchent de faire monde, d'expérimenter un monde, de vivre dans un monde, de partager ou construire des mondes qui sont liés les uns aux autres malgré et à cause et grâce à leur division, opposer cela au fantasme économique d'une grosse machine capitaliste néolibérale qui pourrait allouer des capitaux, organiser la production, assurer la distribution et surtout induire des modes de consommation identiques, homogènes et également répandus sur toute la surface du globe.
Mais alors, lorsqu'on distingue, comme vous le faites, la globalisation d'un côté, donc globalisation qui comprendrait cet univers économique, et de l'autre la mondialisation qui, elle, aurait une dimension plus politique, est-ce qu'on ne maintient pas là une distinction entre deux formes de monde, si l'on reprend une tripartition à laquelle procède Hannah Arendt, notamment dans la condition de l'homme moderne, entre le travail, l'œuvre et l'action? Chacune de ces trois manières d'être au monde sont un monde en tant que tel. Et donc, est-ce que finalement, quand on distingue l'économie de la politique, on n'opère pas une scission au sein d'un monde plus global et à travers différents petits mondes qui composeraient un monde total?
C'est une affaire très compliquée, mais vous mettez le doigt sur un problème extrêmement passionnant. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est très, très pertinent la distinction des trois activités.
Alors peut-être, pouvez-vous les définir un peu plus précisément que je ne l'ai fait?
Oui, rapidement. Alors, donc, Arendt dit qu'au fond, quand on considère les activités des hommes, celles-ci rentrent sous trois catégories. Soit ils travaillent, soit ils œuvrent, c'est-à-dire ils fabriquent, soit ils agissent. Elle distingue le travail, l'œuvre et l'action. Le travail est l'activité par laquelle nous produisons des biens qui sont les biens nécessaires à la reproduction du vivant, donc des biens dits de consommation. Et à ce titre-là, le travail, au sens où elle l'entend, elle, qui est un usage assez singulier, ne produit rien qui puisse rester ou constituer ou édifier un monde. Le travail ne produit que ce qui est nécessaire à la reproduction des forces du vivant, ou comme elle le dit en citant Marx, la reproduction d'une vie perpétuellement mourante. Bon, donc la condition du travail, c'est la vie. L'œuvre, elle, ce qu'elle appelle l'œuvre, c'est autre chose. C'est la fabrication des objets d'usage, ou des œuvres au sens esthétique, au sens artistique du terme, c'est-à-dire l'édification d'un monde proprement humain. Construction d'un univers de choses que nous aurons en partage et qui vont donc à la fois au partage au présent et puis aussi au passé, c'est-à-dire qui vont nous précéder, dans lesquels nous allons nous installer et qui dureront après nous. Et à ce titre-là, la condition de l'œuvre, c'est l'appartenance au monde, justement. Mais de ces deux activités, elle distingue aussi l'action, qui est l'activité politique par excellence. Nous agissons ensemble, nous ne fabriquons pas quand nous agissons, nous ne travaillons pas, nous sommes en train de nous inventer comme acteurs et d'inventer des communautés d'acteurs. Cette activité est liée d'une part à une condition fondamentale sur laquelle justement on va revenir, c'est la condition de la pluralité et donc au désir d'un monde un peu moins unifié, parce que la pluralité est la raison pour laquelle nous agissons politiquement. C'est ce qui donne sens à notre existence politique. Or, sur ces trois plans-là, sur ces trois registres d'activité, nous avons un certain rapport au monde. Nous avons un rapport privilégié au monde dans la typologie des activités du point de vue de l'œuvre, puisque la condition de l'œuvre, c'est l'appartenance au monde. Au fond, en fabriquant des choses, nous édifions un monde, et c'est parce que nous sommes des êtres mondains, parce que nous appartenons au monde, parce que nous sommes au monde et du monde, que nous avons à édifier entre nous ce monde qui sera notre monde commun. Mais du point de vue de la vie aussi, nous avons un certain rapport au monde. Il y a ce qu'on pourrait appeler un monde de la vie, le monde du vivant. Et du point de vue politique, nous avons encore un autre rapport au monde, qui est cette fois-ci un monde politique, proprement dit. Donc vous voyez, sur ces trois activités, on peut greffer en quelque sorte trois compréhensions du monde. Et il me semble que l'enjeu, disons, cosmopolitique, l'enjeu d'une politique du monde, c'est l'articulation ensemble de ces trois dimensions, qui correspondent à trois soucis, trois exigences, et qui en quelque sorte nous imposent trois vocations, trois missions différentes à l'égard du monde.
Donc l'action, l'œuvre et le travail, donc c'est-à-dire la sphère publique, enfin la sphère politique, ensuite la sphère sociale et culturelle, et enfin la sphère du travail qui, elle, concerne plus précisément la vie privée, hein, la vie de la domesticité, dit Hannah Arendt. Ces trois dimensions de la vie entrent dans une dynamique qui est conflictuelle. Et est-ce que finalement la question que soulève la réflexion sur la mondialisation et la globalisation, puisque vous avez bien distingué les deux, ne pose pas la question de savoir comment prendre en charge de manière politique ces trois domaines? Est-ce que finalement ce que nous nommons la crise actuelle ne vient pas du fait que ces trois domaines, ces trois dimensions essentielles à la vie humaine, dans le rapport de l'homme au monde, rentrent en conflit et ne sont plus subsumés par une seule et même volonté, réglementation ou même désir humain, comme dit Hannah Arendt, désir d'un monde pluriel?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aux trois activités correspondent trois sphères d'activité, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la sphère économique pour ce qui concerne le travail, une sphère culturelle et sociale pour ce qui concerne l'œuvre, et puis une sphère proprement politique pour ce qui concerne l'action. Or, dans ce qu'on appelle, nous, la globalisation, ce qui se passe, c'est quoi? Eh bien, c'est que la sphère économique du travail a envahi les deux autres sphères. Elle se les est subordonnées, en sorte que les activités relevant de l'œuvre sont elles-mêmes traitées comme des biens de consommation et que les actions politiques sont elles-mêmes subordonnées à la gestion de cette production des biens de consommation, c'est-à-dire, au fond, sont soumises à la logique économique. Donc, c'est comme s'il y avait une... La globalisation, c'est quoi? C'est pas une affaire simplement de planétarisation, c'est une affaire d'invasion des sphères culturelles et des sphères politiques par une logique qui est la logique du marché, qui est en réalité donc la logique de la production et de la consommation, qui est donc une logique aussi du profit. Ce qui veut dire, au fond, dans l'optique arendtienne, la logique attachée à une activité qui n'est pas capable de produire un monde et qui est même destructrice du monde. Au fond, la globalisation est un mouvement de destruction du monde. On pourrait dire, sans jeu de mots et en assumant la radicalité de la formule, que la globalisation est littéralement immonde. Elle est immonde parce que, au fond, elle n'est absolument pas capable de participer à l'édification d'un monde. Et elle n'est donc pas non plus capable de prendre en charge les exigences que nous sommes en droit d'avoir en tant que nous sommes mondains, ou en tant que nous, mondains, je veux dire, au sens où nous sommes des êtres du monde, et des exigences que nous avons en tant que nous sommes des êtres libres, des acteurs politiques. De ce point de vue-là, je crois que l'écologie, en tant que telle, si elle reste prisonnière de la logique du travail, de la logique économique de l'économie, alors à ce moment-là, on peut dire que l'écologie manque cette dimension politique. Arendt, elle, nous invite à référer cette compréhension du monde à son enjeu proprement politique et, je crois d'ailleurs, cosmopolitique.
Bienvenue dans ce Focus. Ce soir, nous avons un bilan du Forum social, car il y a 10 ans, c'était la naissance de l'altermondialisme au Brésil, mouvement social composé d'acteurs très divers, soucieux de l'environnement comme moteur de la mondialisation, rejeter le libéralisme, penser autrement, une ambition particulièrement d'actualité depuis le passage de la crise financière. Alors nous en parlerons avec notre correspondant au Brésil, Pierre-Ludovic Viola, et puis sur notre plateau, Ignacio Ramonet. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain, fondateur du Forum social mondial, fondateur et président d'honneur d'Attaque. Il y a 10 ans, vous attendiez quoi de ce grand rassemblement?
Écoutez, à l'époque, il s'agissait de mobiliser le maximum d'associations, de mouvements sociaux pour essayer de contrebalancer cette espèce d'élan fantastique qui emportait tout sur son passage et qu'on appelait l'ultralibéralisme. Donc on avait eu l'idée de faire une sorte de contre-sommet de Davos ou contre-forum de Davos. Et l'idée, c'était de rassembler les gens, tout simplement.
Rassembler, mais pour quelle réalisation concrète?
Dans le but, d'abord, d'essayer de bien comprendre ce qu'était l'ultralibéralisme, ce qu'était la mondialisation économique, et essayer de mettre sur pied, en quelque sorte, des mots d'ordre, des actions qui permettent de freiner cet élan et construire un monde différent qu'on avait appelé un autre monde est possible.
Le tango des gens, c'est le moyen qu'on a pour danser entre les ennuis et même pendant l'ennui. C'est un genre de style d'expression d'art populaire réservé à tous. Le tango des gens, c'est la java des agents de police qui ratissent les rues douteux et agressifs. Seulement derrière leur voiture, ils avaient des charrues, ils labouraient les rues. Qu'est-ce que c'est qu'ils nous foutent dedans? C'est le tango des gens. Qu'est-ce qui est les contraintes de l'amour? Le tango des gens. Le tango des gens, c'est le tango du déménagement où tu perds tes cartons de livres qui te donnaient l'espoir. L'espoir de danser le tango comme dans les salons où les anciens nazis devenus argentins font glisser leurs talons.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h18 bientôt. Nous parlons de monde toute cette semaine, le monde avant sa fin, et aujourd'hui de monde commun et globalisation à partir de la pensée d'Hannah Arendt avec le philosophe Étienne Tassin.
Qu'est-ce qui nous fout dedans? C'est le tango des gens. Qu'est-ce qui est le contraire de l'amour? Le tango des gens.
Étienne Tassin, lorsqu'on entend, comme on l'a fait juste avant, Ignacio Ramonet, donc le fondateur d'Attaque, hein, proposer de réfléchir à un autre monde possible, puisqu'il dit un autre monde est possible. Est-ce qu'on peut voir là-dedans, dans cette démarche qui conduit à ce qu'on appelle l'altermondialisme, il faut d'ailleurs définir ce qu'on entend par altermondialisation, démondialisation, on va procéder à ces distinctions qui sont cruciales pour le sujet qui nous intéresse, mais lorsqu'il propose cela, est-ce un moyen de proposer politiquement une réponse à la globalisation? Est-ce que le désir d'un autre monde, c'est-à-dire non pas le fait de construire un monde, mais de changer de monde, est une réponse politique cohérente face au problème que pose la globalisation?
Je ne sais pas si je le formulerai comme ça, mais sur le fond, oui, je crois que vous avez raison. Je dis que je ne le formulerai peut-être pas comme ça pour la raison suivante. C'est que si on suit la logique que nous étions en train de mettre en place, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, la globalisation n'est pas mondaine, elle a l'air d'être mondiale, mais elle n'est pas mondaine, c'est-à-dire elle n'est pas constitutive ou édificatrice d'un monde. Alors la question de l'altermondialisme, c'est simplement la question du monde. Ce n'est pas un autre monde, c'est que c'est ce monde-ci, notre monde, qui est en passe d'être abîmé, altéré, voire peut-être détruit par les effets délétères de cette logique-là de capitaliste, et que la question est de préserver, de sauver, d'édifier, de continuer à être capable de constituer des mondes humains dans cet univers qui semble vouloir tout soumettre à des impératifs économiques dont les effets sont eux immondes. Voilà. Donc en ce sens-là, on peut parler d'altermondialisme. Mais ce qui me semble très important dans la démarche des altermondialistes, et qui d'ailleurs constitue un problème, c'est une difficulté, ce qui me semble important, c'est que justement, ils ne tentent pas d'opposer une organisation mondiale alternative à l'organisation commerciale du monde. Au fond, il ne s'agit pas de construire des équivalents d'OMC qui seraient politiques, parce que dans cette démarche-là, on serait encore dans la perspective d'une tentative d'unification. on serait encore dans la même logique d'unification.
Mais c'est pour ça, alors qu'il faut parler d'un autre monde possible, c'est la même logique qui est mise en œuvre.
Alors c'est la même logique si on sous-entend l'idée qu'il faut construire des réseaux organisés de contestation et de réponse politique à ce grand ennemi sans visage qu'est le capitalisme. Oui, on serait dans la même logique. Mais il me semble qu'il se passe tout à fait autre chose qu'on doit analyser autrement dans l'altermondialisation. C'est que ce sont des expériences locales, d'édification de monde à un niveau local, mais qui rentre en résonance, en écho. Et donc la question n'est pas de constituer un nouvel ordre mondial, la question est de démultiplier les foyers de constitution de monde, les foyers d'édification de monde. Le désir d'un monde un peu moins unifié d'Arendt, c'est ça. Multiplier les mondes. Là où le processus unificateur de la globalisation les détruit, la vraie résistance, c'est de construire des poches de monde. Moi, je crois qu'il faut raisonner comme ça.
Peut-être qu'il faut comprendre comme ça l'évolution du slogan d'attaque qui avant était un autre monde est possible et qui maintenant est d'autres mondes sont possibles.
Ah, le passage au pluriel est absolument décisif, oui. D'autres mondes sont possibles. Et au fond, il y aura autant de mondes qu'il y aura d'individus qui agissent entre eux, qui font monde entre eux par des actions communes, qui tentent de tisser des liens humains et des rapports humains qui échappent ou qui visent à échapper à cette prétention de réduire les individus à des travailleurs consommateurs.
Mais alors le problème qui se pose, Étienne Tassin, c'est de savoir comment les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour essayer politiquement de répondre à la globalisation, de la contrer, d'en proposer une alternative, comment ces moyens-là peuvent être réel et concret, et pas seulement appartenir à un registre qui est celui peut-être d'une utopie. Lorsqu'on dit un autre monde est possible ou d'autres mondes sont possibles, on a l'impression que le discours ou le niveau de réflexion est celui presque d'une utopie, comme si on ne pouvait pas réellement le mettre en œuvre. Vous voyez, il y a ici une importance de registre. Est-ce que les slogans, les pensées qui sont mises en œuvre au sein de pensées notamment altermondialistes, prennent réellement en compte la réalité en tant que telle, ou est-ce qu'elle ne court pas le risque de tomber dans une forme d'utopie qui appelle à un changement radical et donc impossible à mettre en œuvre ?
D'abord, sur le fond, je crois que quand on est utopique, on ne prend aucun risque, sinon que celui de la liberté, de la pensée, de la créativité, de l'inventivité. Il faut en finir avec cette idée que l'utopie est un danger. Non, ce qui est un danger, c'est de transformer les utopies en des méthodes de gouvernement ou en des machines de production sociale. Ça, c'est terriblement un danger. Mais c'est qu'on a déjà renoncé à l'utopie. Il faut appeler utopie toute tentative menée ici et là d'être libre. C'est-à-dire d'inventer avec d'autres des situations, des mondes qui sont des mondes originaux, singuliers, parce que ce sont les nôtres. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire de prendre des initiatives au niveau local pour avoir des rapports économiques qui sont différents, pour avoir des modes de participation, de délibération commune qui sont différents, pour avoir des systèmes d'autogouvernement ou d'autogestion qui sont différents, etc. Mais dans des horizons extrêmement locaux, parce que c'est évidemment dans ces expériences-là. Au fond, l'appartenance au monde, elle est locale. Elle est évidemment forcément singulière et particulière. Nous appartenons à ce monde-ci, dans cette circonstance-ci, avec ces autres-ci, dans le contexte de telles situations conflictuelles ou dans ces situations de lutte. Donc c'est l'ensemble de ces particularités-là qui constituent des expériences de monde. C'est pour ça qu'elles sont multiples. Qu'elles rentrent en résonance, en écho les unes avec les autres, tant mieux. Ça crée des expériences partagées. Mais la difficulté, c'est d'imaginer que l'on puisse transformer ça en une contre-organisation mondiale. Car alors là, au fond, on épouse les armes, si j'ose parler comme ça, de l'ennemi, c'est-à-dire de cette prétention gouvernementale. Je crois que, par exemple, l'absurdité qui règne depuis 15 ans, la plus extraordinaire dans ce genre de discussion, c'est l'idée d'une gouvernance mondiale. Ça, c'est une absurdité totale, je veux dire. Si c'est une gouvernance, elle ne sera pas mondiale. Une gouvernance mondiale, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un arrangement des États entre eux pour exercer la domination sur la planète au détriment des peuples. Bon, donc si c'est ça la gouvernance mondiale, ça n'a strictement aucun intérêt. L'altermondialisme, moi, ça a ceci d'intéressant, c'est que les gouvernances que ces expériences tentent d'ébaucher sont profondément locales et ne sont pas généralisables. L'utopie, elle est là. Pensez dans la singularité et non dans la généralisation.
Et pourtant, c'est difficile, puisqu'en effet, si l'adversaire qu'est la globalisation correspond à ce mode de fonctionnement unifié, planétaire, supranational, comment penser qu'une multiplication à l'échelle locale, une multiplication de petits mondes peuvent contrer ce géant que la globalisation ? Vous voyez comment il est logique de parler de gouvernance planétaire, puisqu'on a envie d'opposer à un seul et unique ennemi qui est d'ordre économique, une seule instance politique.
Bien entendu, mais il faut faire attention au vocabulaire que nous utilisons. Et d'ailleurs, je suis fautif parce que c'est au fond moi qui ai introduit cette image de la guerre et de l'ennemi. C'est malheureux en réalité, parce qu'il faut aussi penser qu'il y a des registres différents. Il n'est pas inintéressant et il est même extrêmement important qu'il y ait de grands efforts aujourd'hui, par exemple pour réformer l'ONU et donner à l'ONU des capacités de fonctionnement qui soient infiniment plus démocratiques. Par exemple, il faudrait réformer le Conseil de sécurité, etc. etc. Bon, c'est-à-dire lui donner une puissance effective. De la même façon, il est extrêmement important de démultiplier les initiatives contractuelles ou les accords, les conventions que les États peuvent passer entre eux, ou encore il est extrêmement important d'imaginer tout ce que promet ou tout ce qu'a pu promettre, disons cela comme ça, l'édification de l'Union européenne comme étant une manière de prendre en charge politiquement quelque chose qui était un problème, qui avait une signification aussi économique et pas simplement politique. Bon. Donc à ce registre-là, et d'ailleurs aussi du côté du droit cosmopolitique et du droit international, il y a des choses extrêmement fondamentales et décisives qui sont. Mais ce qui me semble important, c'est que si on se pose la question de savoir qu'en est-il du monde, de notre rapport au monde, de l'appartenance au monde, de l'expérience du monde, ça se joue sur d'autres terrains, ça se joue sur des terrains qui sont des petits terrains, les petits terrains de nos voisins, de la commune, de la région, des départements, etc. C'est-à-dire c'est dans des registres d'expérience qui sont différents. Et je crois que ça, ici, il y a quelque chose qui retrouve le sens fondamental du politique et de la prise en charge politique du monde, qui n'a pas pour visée de se substituer à des organisations mondiales, mais qui a pour visée de redonner des formes d'expérience, qui sont aussi des formes d'appropriation du monde. Retrouver son monde, retrouver des mondes. Je crois qu'il faut voir au fond que le monde finit, le monde s'achève dans cette dimension de globalité, mais il commence dans la pluralité des expériences. Donc il faut en rester et en revenir à la pluralité des expériences politiques.
Mais c'est là où la pensée d'Anna Arendt nous est indispensable, Étienne Tassin, puisque lorsque vous dites qu'il nous faut retrouver notre monde, de quel monde parlons-nous ? On a fait la distinction tout à l'heure entre le monde proprement économique, le monde familial, le monde politique. Retrouver son monde, est-ce que là on ne retombe pas aussi dans une forme d'utopie ou de jeu de langage ? Qu'est-ce que c'est notre monde ?
Vous avez raison. Il faut, au moins pourrions-nous dire, pour rester un petit peu dans le cadre conceptuel dessiné par Arendt, au moins pourrions dire que nous vivons toujours, nous appartenons toujours à trois mondes en même temps. Enfin, disons, à trois registres ou trois dimensions de monde. Nous appartenons à un monde qui est le monde du vivant et de la vie. Nous appartenons. Et donc, en ce titre-là, au fond, nos univers sont des écosystèmes, des petits biotopes de vie dans lesquels nous vivons. Lorsque nous pensons l'écosystème général qu'est la planète, alors on voit bien que l'activité économique aujourd'hui le menace très, 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 très sérieusement. Bon. Nous vivons dans un autre monde qui est un monde culturel. Ce n'est pas le monde de la vie, c'est le monde de la culture, c'est le monde des univers de sens, de signification, des formalisations symboliques par lesquelles, et des jeux des institutions qui supportent tout ça, par lesquels, au fond, nous produisons une signification plus ou moins partagée avec d'autres des expériences que nous vivons. Puis nous vivons dans un troisième monde qui est un monde proprement politique, c'est-à-dire nos communautés d'acteurs avec lesquelles nous prenons des initiatives, nous décidons d'agir, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ces trois mondes sont assez différents, répondent à des logiques un peu différentes et que revenir à nos mondes, c'est revenir à ce triple rapport-là, essayer de le nourrir d'une manière ou d'une autre.
Il est vrai que la richesse peut s'accumuler à tel point qu'une vie individuelle ne saurait l'épuiser, de sorte qu'elle appartient plus à une famille qu'à un individu. Mais elle n'en est pas moins une chose à user et à consommer, quel que soit le nombre des individus qu'elle fasse vivre. C'est seulement lorsque la richesse devint le capital, dont la grande fonction est d'engendrer encore du capital, que la propriété privée égala ou presque la permanence, qui était le propre du monde commun à tous les hommes. Toutefois, cette permanence est bien différente. C'est la permanence d'un processus plutôt que celle d'une structure stable. N'était le processus d'accumulation, la richesse retomberait aussitôt dans le processus inverse de désintégration par usure et consommation. La richesse commune ne peut donc pas devenir commune au sens de monde commun. Elle resta, ou plutôt on voulut la faire rester, strictement privée. Il n'y eut de commun que le gouvernement, nommé pour protéger les uns des autres, les propriétaires concurrents dans la lutte pour l'enrichissement. L'évidente contradiction de cette conception moderne du gouvernement dans laquelle les hommes n'ont en commun que leurs intérêts privés fut un phénomène temporaire qui annonçait l'effacement total de la différence même entre domaine public et privé, l'un et l'autre, résorbés dans la sphère du social.
Un peu de répit pour la France, mais il sera peut-être de courte durée. Fitch ne dégradera pas sa note, son précieux triple A qui permet à Paris d'emprunter à des taux très bas sur les marchés financiers. Une bonne nouvelle, mais aucun commentaire de l'Elysée. Fitch est la seule des trois grandes agences à être contrôlée par des capitaux français. Et le verdict des deux autres n'est pas encore tombé. Moody's devrait théoriquement se prononcer dans les jours qui viennent, tout comme Standard & Poor's, qui fait aussi durer le suspense.
Standard & Poor's a mis sous surveillance l'ensemble des pays de la zone euro début décembre. Nous nous sommes accordés 3 mois pour analyser la situation, regarder la situation, la gouvernance de la zone euro et ensuite individuellement chacun des pays.
Standard & Poor's a une attitude plus sévère effectivement sur l'économie française. Le scénario économique de Fitch est plus proche de celui du gouvernement français que celui de Standard & Poor's.
La France est le seul pays européen à être menacé d'une dégradation de 2 crans de sa note. Certains parlent déjà d'une annonce de Standard & Poor's dès vendredi soir, une fois les marchés fermés pour le week-end.
Étienne Tassin, lorsqu'Anna Arendt écrit dans La condition de l'homme moderne, on l'a entendu juste avant, interprété par Jean-Louis Jacopin, que la richesse commune ne peut pas devenir commune au sens de monde commun et qu'elle doit rester, on a voulu la faire rester strictement privée. Est-ce qu'elle ne pointe pas là le danger qui est actuel, que l'on peut constater, qui est arrivé, de voir un univers qui en soi devrait être politique ou une dimension politique, revêtir le masque uniquement de l'économie, comme on l'a entendu là dans l'extrait un reportage de LCI où on entend c'était 2 jours avant que la France ne perde son triple A. Et on entend, il me semble, là dans les réactions des gens, dans l'analyse qu'on peut faire de cette perte du triple A dont on a tellement entendu parler, le fait que peut-être le nouveau visage du pouvoir, celui-ci n'est plus politique, il a proprement parlé économique, et c'est le fait que l'on confonde les deux qui peut poser le problème actuel et qui peut engendrer le flou conceptuel dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, Étienne Tassin.
Vous avez remarqué dans le texte d'Arendt qui a été lu tout à l'heure que Arendt stigmatisait ce gouvernement moderne dans lequel, dit-elle, les hommes n'ont plus en commun que leurs intérêts privés. En effet, la poursuite des intérêts privés, si c'est la seule chose que nous avons en commun, cela signifie que nous n'avons plus le monde en commun. Car évidemment, la poursuite de ces intérêts privés, surtout sous l'orientation de la richesse, est totalement contradictoire avec l'idée de ce monde commun. Elle renvoie le monde, elle, à quelque chose qui est concret, qui est solide. D'ailleurs, elle construit une distinction qui est discutable peut-être entre la propriété et la richesse. C'est-à-dire, au fond, quand on est dans un univers de propriétaires, on est dans un univers où il y avait une sorte d'attachement concret aux choses du monde. Et la richesse, comme équivalent universel, au fond, à quelque chose volatilisé, volatilisé le monde lui-même en le transformant en pure valeur, qui fait l'objet de spéculations sur des places boursières, mais qui est sans objet d'expérience concrète, sans réalité derrière. Et donc, vous avez raison, quand vous évoquez les agences de notation, c'est absolument dramatique, ces histoires d'agences de notation, parce que, et là, évidemment, c'est caricatural ce qui s'est passé en France et en Europe en général depuis plusieurs mois, c'est-à-dire cette fixation sur l'idée de la note et de la dégradation. Parce que tout ça n'a strictement quand même rien à voir, mais absolument rien à voir avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes, avec ce que nous désirons, avec ce que nous aimons, avec ce qui donne sens à nos existences, avec ce qui les rend difficiles, heureuses, ce qui nous fait souffrir et ce qui, en quelque sorte, constitue pour nous des petits éclairs de joie. Tout ceci est étranger à tout ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers qui est évalué par ces agences de notation sur des critères et à propos de choses qui n'ont strictement rien à voir avec les éléments de notre existence. Alors, il y a, vous avez raison, substitution d'un pouvoir à l'autre. Au fond, je pense que, par exemple, Anna Arendt avait analysé d'une manière, à mes yeux, décisive dans les années 40, dans la deuxième moitié des années 40, ce qu'elle avait appelé le système de la domination totale, le pouvoir totalitaire, le totalitarisme. Je crois que nous sommes rentrés, d'ailleurs l'expression, me semble-t-il, avait été utilisée par Ignacio Ramonet il y a quelques années, dans un autre univers qui est l'univers de la domination globale, de ce qu'on pourrait appeler un pouvoir globalitaire. Et ce pouvoir globalitaire, cette domination globale, n'est pas la domination de quelques individus, d'un groupe, d'un mouvement appuyé sur des institutions et sur une sorte d'appareil d'État. Non, c'est cette sorte de mainmise d'une logique, la logique de la spéculation financière, qui échappe y compris aux banques d'ailleurs et aux spéculateurs, et qui échappe en grande partie aux États, d'où la détresse, la panique dans laquelle les États se trouvent, cette mainmise de cette logique sur l'ensemble de nos existences. Au point que toutes les valeurs de nos expériences doivent être traduites dans les termes de cette valeur dont les agences de notation se font les grands évaluateurs. Et là, c'est évidemment effrayant, parce que c'est là où on peut dire de façon très concrète et précise que la globalisation est proprement destructrice du monde.
Et pourtant, vous dites que cette globalisation, le système économique tel qu'il a lieu en ce moment, elle nous est étranger à nos vies, nos expériences, notre quotidien. Pourtant, il n'a pas surgi de nulle part. Les hommes et notre monde commun quotidien n'est pas complètement étranger à ce monde-là, puisque l'un a bien fini par produire l'autre. Le système de spéculation économique n'a pas surgi un jour de nulle part. Vous voyez ce que je veux dire ? Les hommes en tant que tels ont une part de responsabilité. La question est comment en sommes-nous arrivés là ? Et deuxièmement, comment faire à partir du moment où on constate que, un certain dérèglement par rapport à des critères qui concernent le monde commun, non pas le monde économique, comment faire du coup pour réguler ce monde économique-ci ? Mais là, il y a vraiment deux questions. Et l'opposition entre le monde dans lequel nous vivons et le mode économique, elle est un peu factice, il me semble, puisque les deux, il y a bien des interférences, sinon l'un n'aurait pas été créé par l'autre.
Vous avez parfaitement raison, et je suis en total désaccord avec vous. C'est-à-dire, vous avez parfaitement raison de souligner ce problème. Mais vous voyez bien que si j'avais le moindre commencement du début d'une réponse, je serais un véritable génie nobélisable.
Non, mais ce qui est une manière de montrer que là, on définit des concepts, oui, des termes, mais bon, concrètement, les choses sont moins schématiques, disons.
Oui. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est pas d'aujourd'hui que cette mainmise de l'économie sur la vie politique et sur la vie sociale et sur la vie culturelle s'est produite dans l'Occident. Ça est une affaire qui va remonter au Moyen-Âge et à la montée en puissance d'une bourgeoisie bancaire et d'une bourgeoisie industrielle ensuite qui s'empare de l'ensemble des existences. Tout ça se joue entre le 16e, le 17e et le 18e siècle. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est qu'il y a une sorte d'extension planétaire qui fait qu'au fond, les frontières nationales ont sauté dans les systèmes d'allocation de capitaux et donc dans le jeu de ces fluctuations bancaires, financières et ces flux de capitaux, etc. Bon, très bien. Maintenant, ne dites pas que l'opposition est... Là où je ne suis pas d'accord, c'est l'opposition est factice. Non. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose de factice. C'est-à-dire, il est évident que cet univers-là, qui est évalué par les agences de notation, détermine nos conditions de vie. Là, nous sommes bien d'accord. La baisse du pouvoir d'achat et la montée du chômage, ou bien, je ne sais pas quoi, la réévaluation de la TVA, tout ça, ce sont les conséquences de cet univers-là. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a une sorte de généralisation du discours qui consiste à évaluer le sens des existences humaines à la seule aune de cette logique-là, de ces critères économiques. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une mainmise du discours économiciste qui prétend détenir une rationalité capable de produire le sens, la juste évaluation du sens des expériences humaines. Une société, c'est pas ça. Une communauté humaine, c'est pas ça. Une existence, même individuelle, c'est pas ça. C'est ceci, au sens où c'est en partie conditionné par là. Mais le contenu expérientiel de ma vie, de mes rapports aux autres, de mes rapports au monde, et le jeu de mes espoirs, de mes désirs, de mes fantasmes, de mes souffrances, de mes peurs, de mes angoisses, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un contenu effectif, là, qui est le contenu éthique, substantiel, pourrions-nous dire, d'une expérience de monde, d'une appartenance au monde, et qui se joue dans un partage avec d'autres, dans des conflits, des divisions, des communications, des ruptures, etc. Bon. Tout ceci a tout d'un coup été volatilisé parce qu'il y a un discours qui nous explique que la seule et unique grande affaire, c'est de récupérer un petit A positif.
Alors justement, vous avez employé le terme d'éthique et le terme de discours. Est-ce que la question ne se pose pas en ces termes, à savoir, est-ce que un discours, une réflexion d'ordre éthique est traduisible dans le langage économique ? Est-ce qu'il y a une influence réelle ? C'est toute la réflexion, la question de savoir est-ce qu'on peut réfléchir en termes moraux au capitalisme, par exemple. Est-ce qu'il y a un sens concret à faire cela ? Ou est-ce qu'on ne peut pas considérer que les deux correspondent à deux désirs différents chez l'homme ? De même que Hannah Arendt, dans le texte que j'ai lu en début d'émission, parlait de ce désir de pluralité, on pourrait dire qu'il y a aussi un désir d'unification. Et que les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre au sein de l'homme, puisque c'est quand même... Enfin, il suffit de constater le monde dans lequel nous vivons.
Je dirais deux choses. La première, c'est que je ne suis pas sûr que la question soit la question éthique. J'ai évoqué comme ça l'expérience éthique, le contenu éthique de nos existences. Mais je ne suis pas sûr que le problème soit de moraliser l'économie. L'économie est proprement immorale, et donc il serait bien vain de prétendre la moraliser. Bon, ce serait une... Bon, voilà, ça n'a pas d'objet.
Voilà, mais ça est important de le préciser.
Ça, voilà,
hein.
Oui. Donc, en revanche à ça, j'oppose l'autre chose, c'est que c'est un problème politique. Et que l'une des grosses difficultés dans lesquelles nous sommes, et qui est un effet de la dite globalisation, c'est la perte de puissance et la perte de concrétude, de consistance, si vous voulez, du registre des initiatives, des expériences, des entreprises proprement politiques. C'est-à-dire c'est le plan politique de nos existences qui est en quelque sorte dilué, volatilisé par cette espèce de soumission totale au pouvoir des agences de notation. Bon. Donc en ce sens-là, il me semble que la question est véritablement celle de la réactivation des expériences politiques. Maintenant, je ne sais pas sous quelle forme la réactivation des dites expériences politiques peut produire des effets qui seraient des effets permettant de réguler, compenser, diminuer, amoindrir les effets destructeurs de cette logique libérale. Mais ce qui est sûr, c'est que seule une prise de conscience politique, seule ce qu'on appelle comme ça journalistiquement un débat politique, c'est-à-dire la prise de conscience collective et la prise de responsabilité collective de ces enjeux sur un plan politique peut constituer une véritable alternative à cette mainmise-là. Donc, quand on va dire la question, c'est réactivons une entente politique du monde qui est aussi une compréhension du monde dans lequel l'avenir du monde est suspendu à notre capacité politique d'agir ensemble.
Et voilà, justement, c'est là où Arendt nous redevient essentiel, c'est qu'elle nous permet de penser à travers et au sein de ce terme même de politique, non pas seulement une façon de réfléchir, de débattre, vous l'avez dit, de mise au point théorique, mais au contraire une manière d'agir. Pour reprendre la tripartition arendtienne que nous avions évoquée en début d'émission, la politique, c'est le domaine de l'action. Et c'est quasiment la bonne nouvelle de l'action politique que nous donne ou nous annonce Hannah Arendt, c'est cette capacité d'agir des hommes qui peut accomplir, dit-elle, des miracles. Et là, on a une pensée de l'action qui est extrêmement forte et qui permet de montrer en quel sens la dimension politique peut véritablement agir, voire contrer la sphère économique lorsque celle-ci est jugée trop globalisante, envahissante.
Oui, mais vous remarquerez que du coup, la réponse d'ordre politique, c'est-à-dire la vocation de l'action, de sa capacité de commencer, sa puissance de faire naître quelque chose de nouveau, c'est-à-dire aussi de faire naître des acteurs, des communautés d'acteurs et des mondes. Cette puissance, cette capacité-là, l'invocation de cela ne constitue pas en quelque sorte une solution alternative aux effets de la logique que nous évoquons de la globalisation économique. C'est simplement, ça veut dire qu'il faut réactiver des lieux d'expérience du monde. C'est ça qui est en question. Mais je mettrai personnellement l'accent sur le fait que agir, tel que l'entend Arendt comme action politique, c'est toujours commencer. C'est commencer quelque chose de nouveau. C'est se commencer soi comme acteur, c'est initier, donner naissance à une communauté d'acteurs, c'est faire naître un monde nouveau. Et donc la grande question politique, et c'est ça que veut dire le miracle, qui est la chose la plus subtile qu'elle est peut-être dite à l'égard de l'action politique, on a toujours dit l'invocation de ce discours religieux, etc. Non, c'est une compréhension politique fondamentale. La grande question du monde, c'est pas celle, je sais que vous allez parler demain de la fin du monde, la grande question politique, c'est celle du commencement du monde. Or, le seul, l'unique, mais l'incessant, perpétuel et toujours présent commencement du monde, c'est notre capacité d'agir et d'agir avec les autres.
Et en quoi celle-ci est-elle transposable de l'échelle individuelle à l'échelle politique ? Parce qu'on ne commence pas, on n'agit pas de la même façon lorsqu'on agit dans un monde beaucoup plus restreint, ce que vous disiez, le monde de l'expérience, et de manière politique. La réflexion sur l'action n'est pas littéralement transposable à l'échelle individuelle, à l'échelle politique et collective.
L'opposition que vous faites entre l'échelle individuelle et l'échelle politique ne me semble pas bien formulée, excusez-moi.
C'est je vous en prie.
Dès que nous agissons, c'est toujours avec d'autres, on n'agit jamais seul. C'est la pluralité est la condition de l'action.
Donc, autrement dit, toute action est toujours d'emblée
elle
politique.
Elle a déjà une signification, une dimension politique. Oui, donc la politique est là où on ne l'attend pas. Vous faites une AMAP, vous êtes déjà dans le politique, alors que ça a l'air d'être un problème de distribution économique, de rapport entre producteurs et consommateurs. Oui, mais non, vous construisez une communauté d'acteurs prenant en charge ensemble des modes de relations nouveaux. Donc vous êtes déjà dans le politique. Au fond, le politique, il est partout là où on ne l'attend pas. Parce qu'en réalité, dès qu'il y a de l'agir en commun avec une liberté qui s'affirme, on est dans la chose politique. Et on perd, excusez-moi, mais on perd bien souvent la dite dimension politique lorsque l'on passe au niveau des organisations qui sont supposées encadrer les actions collectives, voire pire encore, lorsque l'on passe dans l'administration de l'État, où le gouvernement qui se prétend la chose politique se révèle en réalité rien d'autre que la gestion économique de la pénurie nationale.
Oui, le domaine politique en tant que tel n'est pas exempt de tout danger, de toute forme de déviation. Là, lorsqu'on parle, toute action est d'emblée politique, la politique est là où on ne l'attend pas, certes. C'est une chose de dire cela, une autre est d'en faire juste, du coup, une forme de célébration de la vie politique en tant que telle, qui a besoin elle aussi d'être régulée, qui elle aussi peut s'exposer à des dangers, ou peut exposer les hommes à des dangers qui se retournent contre eux, tout comme l'économie le fait. Anna Arendt est quand même celle qui pense le totalitarisme.
Oui, il y a une contradiction, un paradoxe en tout cas dans l'action, c'est qu'au fond, elle est surgissement spontané et libre d'individus nouveaux, de communautés nouvelles et naissance de mondes nouveaux. Mais en réalité, elle demande aussi à s'organiser et à s'instituer cette action-là pour perdurer. Ne serait-ce que pour ça, il pourra avoir ensuite des effets rétroactifs en quelque sorte sur les modes, sur la manière dont nous allons vivre et dont nous allons faire nos expériences de monde. Et le paradoxe, c'est qu'en effet... L'organisation de l'action peut trahir, voire contredire le surgissement de liberté qui a été à son origine. L'installation des institutions en charge de l'administration commune peuvent tout à coup produire l'effet contraire de celui qui est attendu par la dimension insurrectionnelle de l'action libre. Il y a une contradiction. Cette contradiction, il est inutile de se voiler la face. Elle est sans solution et je crois qu'elle, c'est ça qui donne son sens, sa signification à la vie politique.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Merci beaucoup Étienne Tassin d'être venu nous parler d'Anna Arendt, de mondialisation, de globalisation. Aujourd'hui, ce matin, sur le nouveau chemin de la connaissance, de vous, on peut lire « Un monde commun pour une cosmopolitique des conflits » qu'on trouve aux éditions du Seuil. « Le trésor perdu, Anna Arendt et l'intelligence de l'action politique » qu'on trouve aux éditions Payot. Et également un article dans un recueil qui est paru aux éditions PUF dans la collection Débats philosophiques sur Anna Arendt, « Totalitarisme et banalité du mal ». Votre article est intitulé « De la domination totale à la domination globale ». Perspectives arendtiennes sur la mondialisation d'un point de vue cosmopolitique. On est en plein dans le sujet du jour.
So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance. C'est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman. Bonjour.
Depuis une dizaine d'années, les études scientifiques sur le cerveau ont donné de formidables informations. Du coup, le public attend de lui la clé de tous les comportements humains. Mais n'est-ce pas une utopie dangereuse? C'est une des questions que pose Emmanuel Fournier dans « Creuser la cervelle, variations sur l'idée de cerveau » paru aux Presses universitaires de France. Emmanuel Fournier, bonjour.
Bonjour.
Alors, variation sur l'idée de cerveau, variation, parce qu'effectivement, votre livre est une série de questions que vous posez. Vous passez à travers les neurosciences, à travers la philosophie, et on voit que le cerveau est un problème pour la philosophie aujourd'hui. Pourquoi ?
Le livre commence sur un verbe qui a été forgé pour la circonstance, c'est le verbe « encerveler », comme si nous nous encervelions, c'est-à-dire nous nous enracinons dans notre cerveau, et même nous en faisons un double, nous le mettons à notre place. Toute notre langue est imprégnée maintenant d'un certain langage neuroscientifique. Si je vais courir le dimanche matin, ne croyez pas que ce soit pour mon plaisir, mais c'est parce que mon cerveau a besoin de sa dose d'endorphine. Et on a l'impression comme ça qu'on va trouver dans le cerveau, non seulement le cerveau est l'auteur de toutes nos pensées, et peut-être de tout notre monde, c'est des questions métaphysiques sur lesquelles on reviendra peut-être, mais que on pourrait trouver finalement des dispositifs éthiques fondamentaux à l'intérieur du cerveau.
Oui. S'agit-il d'un nouveau déterminisme ?
C'est certainement un déterminisme, mais c'est un déterminisme sur lequel on peut réfléchir. Il suffit de le pousser à bout, justement. C'est-à-dire, si l'on ne retient de nos idées que ce qui veut bien s'inscrire, justement, dans le cerveau, on ne voit pas pourquoi une idée tirerait de son inscription neurale une valeur morale plus importante qu'une autre. Et pourquoi la science déciderait que l'une a plus de valeur que l'autre ? Ce serait une drôle d'idée, cela voudrait dire qu'on veut faire jouer justement l'étude des sciences d'autres sens que ceux pour lesquels elles sont faites.
Alors malgré tout, il y a des dysfonctionnements qui témoignent qu'effectivement la pensée ne s'affranchit pas du cerveau. Quand tout d'un coup il y a une partie du cerveau qui fonctionne mal ou qu'on peut repérer sur une imagerie cérébrale quelques points qui témoignent d'un problème, on voit bien effectivement que certaines facultés de connaissance notamment sont atteintes.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir la difficulté qu'on a à penser ces questions-là.
Oui.
C'est-à-dire que si on suit les expériences d'illusion d'un côté, de prise de drogue d'un autre côté, ou aussi les expériences, les maladies qui privent les malades d'un certain nombre de fonctions, on a l'impression que la réalité du monde dépend peut-être de l'intégrité de notre cerveau.
Oui.
Et du coup, ça pose des questions. Il faut pousser l'idée jusqu'au bout et ça pose des questions sur ce qu'est la réalité du monde. Se pourrait-il qu'elle soit en partie une illusion et que notre monde soit fabriqué en partie au moins par le cerveau.
Oui, alors là, on retrouve des vieilles questions philosophiques.
Exactement.
Mais est-ce à dire que justement le cerveau remplace aujourd'hui la notion de conscience ou d'esprit ou de sujet ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous mettons le cerveau à notre place et c'est un peu comme si là où autrefois j'étais un esprit qui agissait et utilisait mon corps comme un instrument, c'était maintenant mon cerveau qui me manipulait et m'instrumentalisait. Mais il faut pousser l'idée jusqu'au bout, c'est-à-dire si c'est le cas, le cerveau va se retrouver dans la même position que la conscience. On a besoin de soubassement, de fondement. On s'est tourné très longtemps vers la théologie, la métaphysique pour assurer ce rôle. Et la conscience a joué la position dernière. Mais ne tombe-t-on pas avec le cerveau dans les mêmes illusions que celles où était tombée la conscience, qui se posait en retrait de toute chose, en dehors de toute cause étrangère à elle-même, dans une espèce de solipsisme, finalement, où le cerveau n'est plus sûr que de sa propre existence à la fin.
Alors, que peut faire la philosophie, ou que doit faire la philosophie, à l'égard de, justement, de ces informations que nous donnent les neurosciences ? Est-ce qu'elle ne doit pas, quand même, malgré tout, les intégrer pour penser différemment, et peut-être sortir d'un certain idéalisme ? Ou bien doit-elle se préoccuper de contrer les idéologies qui sont liées à ces neurosciences ?
Tout à fait. La philosophie, d'abord, doit se réjouir de tous les progrès des neurosciences, parce que c'est une occasion de penser et de remettre en cause nos illusions et les autres explications alternatives, moralisatrices, qui expliquent notre comportement par notre mauvaise éducation, nos instincts pervers ou autre chose. L'alternative d'explication cérébrale est une aubaine pour la philosophie. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'ornière de cette nouvelle explication. Et la place de la philosophie, c'est justement de prendre une certaine distance par rapport aux différentes explications ou les faire jouer les unes contre les autres pour essayer de trouver à la pensée des espaces où passer, où circuler, et aussi reposer les vrais problèmes éthiques et pousser un petit peu le cheminement scientifique à bout pour voir quels sont ses sous-bassements, ses propres sous-bassements, oui. Alors, dans quelle mesure l'idée de cerveau n'est pas construite aussi par les scientifiques et construite par la science.
Oui, le modèle aussi physico-chimiste.
Exactement. Et il faut penser tout simplement, toutes les données d'imagerie ou toutes les données de neuropsychologie demandent un apprentissage des sujets, demandent de les soumettre à un apprentissage, et par conséquent, on fabrique quelque peu les données aussi qu'on doit avoir sur le cerveau.
Bien sûr, mais alors est-ce que la philosophie doit tenir, par exemple, au mot d'esprit ? L'esprit est-il un produit du cerveau ? L'esprit a-t-il une autonomie ? Et quand je dis esprit, bon, on peut me dire aussi psyché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'inconscient dans le cerveau ? Redonner une autre définition ou donner une nouvelle place à ces notions de psychisme face au cerveau.
La philosophie a besoin de tous ces mots. On a des besoins qui sont multiples. On a besoin de tous les inconscients, que ce soit les inconscients qui ont été fournis par la psychanalyste, qui nous apportent des solutions à certains de nos problèmes. Le cerveau est une autre façon, raisonner en termes cérébraux, de nous interroger. Les termes d'esprit sont intéressants aussi. La philosophie n'a pas à se limiter.
Comment les articuler alors ? Comment articuler esprit et cerveau ?
Par des variations, justement, c'est-à-dire en faisant jouer les différents mots, les différents concepts qu'on a pour explorer ces questions-là, les uns contre les autres.
Beyond mind and brain, c'est comme ça que vous terminez. Donc, par-delà l'esprit et le cerveau, pourquoi ? C'est quoi cet au-delà ?
Cet au-delà, c'est des questions qui ont trait au langage, probablement, et à la façon, justement, dont on détermine des sujets à nos actes, et où on se croit obligé par la grammaire de donner des sujets à nos actes, de les appeler tantôt conscience, tantôt esprit, tantôt cerveau, tantôt aire cérébrale, tantôt cortex préfrontal. Mais ça correspond quand même à d'autres contraintes de la pensée, des contraintes linguistiques, et où la pensée aussi a beaucoup de travail.
Merci beaucoup, Emmanuel Fournier. Je rappelle le titre de votre livre, Creuser la cervelle, variation sur l'idée de cerveau, au PUF. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François. Penser la mondialisation et se creuser la cervelle, c'était l'heureux programme du jour. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de notre semaine consacrée au monde. Après l'origine du monde, le meilleur des mondes possibles et la mondialisation, demain c'est de fin du monde que nous allons parler, ou plutôt de ce que signifie cette peur de la fin du monde, avec le philosophe Michael Fessel. Et je renvoie d'ailleurs au livre de Martin Stephens, « Vivre ensemble la fin du monde » paru aux éditions Salvator, que vous pouvez parcourir en attendant l'émission de demain, ça constitue une excellente introduction au thème. Réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous trouverez également la démarche à suivre pour installer cette émission dans votre ordinateur, sur iTunes par exemple, la podcaster, la télécharger, pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Un grand merci également à Jean-Louis Jacopin, dont la voix nous accompagne toute cette semaine.